Voilà, je vais vous parler du pastorat, hein, du service pastoral, en lien avec ce qu'on a entendu depuis 3 semaines sur l'Église missionnelle aussi. Comment est-ce que ça s'articule? Comment est-ce que la vision missionnelle, on peut la mettre en rapport avec le service pastoral? L'office, c'est la charge, hein, pastorale. L'office pastoral, je vais juste rapidement donner une définition de cette charge pastorale. Le contexte dans lequel aujourd'hui nous sommes dans cet aspect pastoral, est-ce qu'il y a un modèle biblique pour le pasteur? Est-ce qu'il est appliqué à l'Église et comment dans Bergenville, on est très très vite? Et quelles sont les conséquences avec la vision missionnelle? Il y a des conséquences et je voudrais juste les évoquer ce matin. Alors, premièrement, le ministère pastoral. Le service, donc, ou service ou ministère, c'est le même mot, hein. Le service consiste à prendre soin, nourrir les brebis du troupeau du Seigneur, puisque nous sommes tous des brebis du Seigneur, selon l'image que Jésus a pris lui-même. Et dans le Nouveau Testament, on parle plutôt d'un verbe faire paître ou paître, le troupeau, faire paître, hein, le troupeau. C'est en fait agir comme le dit Jésus à Pierre, de faire paître ces agneaux, hein, donc ces brebis. C'est dans Jean, le dernier chapitre de Jean, juste quand Jésus monte au ciel, hein, il parle à Pierre pour dire « Fais paître mes agneaux ». En fait, le service pastoral, c'est agir comme un berger avec des moutons, mais il veille sur les âmes, hein, donc sur nos âmes, puisque l'âme, c'est la vie, hein, la vie de chacun de nous. Et donc, le berger doit s'assurer qu'elles ont une bonne nourriture spirituelle, de les guider dans le droit chemin, et de prendre soin de celles qui sont faibles, voire malades. C'est vraiment directement lié à un berger physique, hein, avec des moutons. Dans Actes chapitre 20, le Saint-Esprit, est-il écrit, vous a établi évêque, donc superviseur ou surveillant, pour paître l'Église du Seigneur. Et dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 2, il s'adresse aux anciens. Anciens, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc à partir de là, on peut dire que le service ou le ministère pastoral, c'est que le rôle du pasteur doit être centré sur ce qu'on vient de dire. Or, le pasteur, enfin le mot pasteur, a été utilisé dans cette histoire de 2000 ans depuis Jésus, de différentes manières, et il a été influencé par le monde, surtout. Et c'est pour ça qu'on a un gros problème avec la notion de pasteur, parce que au lieu que ce que je viens de dire a influencé le ministère pastoral, c'est le monde qui l'a influencé. Alors comment ? Bah, comment dans les premiers siècles, bon ça a été, mais dès le IIIe siècle, ce qu'on appelle l'Église catholique, donc universelle, hein, qui existe encore aujourd'hui, eh bien, elle a établi un poste héréditaire. Un poste héréditaire, surtout dans le clergé, ce qu'on appelle le clergé, hein, parce que c'est les pasteurs, hein, de l'Église. Un poste héréditaire, un peu comme dans l'Ancien Testament avec les Lévites. Et en fait, c'est souvent les familles nobiliaires, les nobles, hein, qui donnaient le deuxième ou le troisième enfant, garçon, pour rentrer dans les ordres, pour devenir pasteur. Pasteur ou prêtre, ou enfin après, il y a évêque, etc. Alors, ça, c'est surtout pour les postes nobiliaires. Et même nous, en France, hein, qui sommes une nation chrétienne depuis Clovis en 496, où la nation est devenue chrétienne, eh bien, jusqu'à ce qu'on appelle l'Ancien Régime, avec les rois, jusqu'en 1789, quand il y a eu la Révolution, ce qu'on appelle l'Ancien Régime, il y avait le clergé, enfin, dans les prises de décision dans l'Assemblée constituante nationale, il y avait le clergé qui était le premier, qui était au-dessus en termes de hiérarchie. Ensuite, il y avait la noblesse, et ce qu'on appelle le tiers-État, c'était les bourgeois. Donc il y avait à peu près 3-3-3, mais c'est les pasteurs qui étaient dans le politique, qui étaient au sommet de la hiérarchie politique, qui prenaient les décisions pour le pays. Et ceci explique cela aussi en France, que ceux qui ont fait la révolution, ils ont voulu détruire l'Église, etc. Mais ils ont égorgé les prêtres et tout ça. Voilà. Voilà, il y a une explication derrière ça, parce qu'ils voulaient enlever ces privilèges-là. Pas que la noblesse, mais aussi au clergé, donc au pasteur. Donc vous voyez, c'est quand même la notion de pasteur à ce moment-là. D'ailleurs, Oscar, tu verras, quand on s'adresse aux Français moyens, ils nous appellent curé, ou on va à la messe, voilà, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils connaissent. Voilà. Donc vous voyez, le poste héréditaire n'a rien à voir avec le berger. Ensuite, le pasteur, alors là, plutôt dans l'Église protestante et évangélique, s'est devenu un conseiller en psychologie. Une période qui existe encore. Ensuite, c'est un manager. C'est un manager. Le pasteur doit être un manager. En plus, avec les grandes églises qui sont aux États-Unis, jusqu'à 10 000, voire plus, voilà, ça devient des managers. Et des businessmen. Des businessmen, hein, où il y a toute une activité de business dans l'Église. Forcément, il y a beaucoup de soucis d'argent, de gens à payer. Hein, une Église de 1000, il y a souvent une trentaine de pasteurs, voire plus. N'en parlons pas des autres. Vous voyez, donc, le mot pasteur, enfin l'office, la charge pastorale, a passé par de nombreuses variations de compréhension, d'interprétation, ce qui fait que on voit que c'est le monde qui influence l'office pastoral, plutôt que ce soit la Bible qui influence effectivement ce rôle pastoral. Et c'est pour ça qu'on a des soucis aujourd'hui. Tout le monde se dit un peu pasteur, on ne sait pas trop, voilà, ce qu'il est, ce qu'il fait, est-ce qu'il est businessman, et après il y a des hiérarchies, etc. Mais bibliquement, pour revenir à la Bible, je vous ai présenté certains versets tout à l'heure, bibliquement le pasteur est un berger avec des brebis, avec des agneaux, et un berger qui se déplace avec le troupeau. Voyez-vous ? Il faut bien remettre les choses à sa place, et c'est pour ça qu'on le comprend mieux dans une église locale, relativement petite, que en fait le pasteur doit être proche de ses brebis pour les emmener au pâturage, pour les emmener avec eux. Ah, merci beaucoup, oui. Elle va au devant des désirs, là, c'est super. Donc un berger se déplace et en fait il fait une histoire, il fait un voyage. Vous voyez, on est dans un voyage. Et donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans l'aspect businessman, manager, conseiller psychologique. On est vraiment, le pasteur, il est dans une histoire dynamique, qui bouge, qui est vivante. En partant d'une naissance, hein, il suit la naissance d'un agneau, il l'élève jusqu'à maturité, etc., il le suit. Donc, c'est vrai pour le... Enfin, ce devrait être vrai pour le pasteur aujourd'hui, que ce soit individuellement ou corporellement, c'est-à-dire l'ensemble du troupeau. D'ailleurs, les bergers, souvent, ils n'ont pas que leurs propres, souvent pas du tout leurs propres agneaux. Ils ont des propriétaires qui leur confient. Voilà. Donc, que ce soit individuellement ou tout le troupeau, c'est un voyage. On est dans un voyage, on le retrouvera tout à l'heure. Alors, quel est le modèle du pastorat ? Eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus. Le modèle de la charge pastorale, ça va être Jésus, le bon berger. C'est le poimen en grec qui est utilisé, c'est ça. Et c'est pour cela que les apôtres n'ont pas voulu utiliser le mot pasteur, pour les pasteurs d'aujourd'hui, voilà, parce qu'ils respectaient Jésus qui est le seul berger, le seul bon berger. Tous les autres bergers, moi je suis pasteur, mais je ne suis pas bon. En nature, aucun homme n'est bon. Donc le seul qui est bon, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment le laisser guider. Mais comment est-ce qu'on peut le laisser guider alors qu'il est invisible, alors qu'il est spirituel, vous voyez ? Et toute la difficulté. Et c'est pour ça que le pasteur sur la terre doit être une sorte de modèle. Moi, plusieurs fois, des pasteurs m'ont dit, oui, mais tu sais, le pasteur doit être un modèle. Mais si on prend ça à la lettre, en fait, ces pasteurs que je connais, en fait, ils cachent beaucoup de choses, parce que comme ils veulent être un modèle, ils cachent leurs défauts, ils cachent même des mensonges, ils cachent même des choses, parce que sinon, les brebis sont effarouchées s'ils voient que le pasteur a un défaut. Voyez, et donc, là aussi, on retombe à nouveau dans un autre défaut. C'est qu'on n'accepte pas que le pasteur ait des défauts, alors qu'il est forcément humain, il a des défauts. Mais Jésus n'a pas de défauts, et c'est pour ça qu'il faut le suivre, lui. Le verbe « paître », donc « paisser le troupeau », le berger qui paie son troupeau, par contre, c'est celui-là qui est utilisé à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Le mot « poimen », berger, est réservé, c'est pour ça qu'on l'utilise une seule fois, dans Éphésiens 4, avec les cinq ministères, pasteurs, enseignants. Et après, on ne le retrouve pas, ce qui fait que ça amène des débats. Hein. Il y a des églises qui même disent à cause de ça qu'ils ne veulent pas de pasteur. Vous prenez par exemple l'église des frères, l'église d'Arbis, tout ça, ils ne veulent pas de pasteur. Et l'église que nous, on a fondée ici, les communautés chrétiennes des Yvelines, c'est grec, celui qui l'a fondée, il ne voulait pas entendre parler de pasteur. Il a dit, pasteur, ça n'existe pas, vous voyez. Il n'y a que des anciens. Voilà. Donc moi, j'étais ancien, fondateur, mais Yves Cornas ne voulait pas entendre parler. Il dit, vous dites que vous êtes pasteur et ça, parce que les gens ne comprennent pas, mais ici, ça n'existe pas, vous voyez. Donc, vous voyez, cette notion pasteur est vraiment interprétée de manière très, très diverse. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, le mot pasteur n'apparaît qu'une fois. Mais par contre, le mot paître, paisser le troupeau, faites paître le troupeau, est utilisé à plusieurs reprises. Notre Église, il a fallu qu'on se positionne là-dessus. Suite au CCY, on est devenu EPEA en 2001. Et nous, on accepte le titre de pasteur, à l'instar d'ailleurs de Calvin. Calvin qui a étudié, enfin c'était un des meilleurs théologiens pour la parole de Dieu, hein, qu'on reconnaît encore aujourd'hui, eh bien il a bien reconnu qu'il y a des pasteurs et des anciens. Voilà. Sauf que lui, comme il a établi Genève comme une ville théocratique, et parce qu'il était persécuté à l'époque, les anciens s'occupaient de la politique de la ville et les pasteurs s'occupaient des congrégations. Et de temps en temps, ils se retrouvaient, pasteurs et anciens, ce qu'ils appelaient le synode de Genève. Voilà. Mais là aussi, il y a eu des exagérations, puisqu'ils ont même brûlé Servais et d'autres pour hérétie, etc. Mais la notion de pasteur, et lui, il formait des pasteurs pour la France, puisque la France, ils étaient persécutés, et il formait des pasteurs à Genève, et après, ils allaient, ils ne pouvaient pas rester parce qu'ils étaient persécutés, mais ils allaient en France pour animer les communautés de l'époque. Et d'ailleurs, Louis XIV, quand il a fait la révocation de l'édit de Nantes, il s'est d'abord attaqué au pasteur. Parce qu'en fait, quand vous attaquez au pasteur, c'est-à-dire celui qui conduit le troupeau, eh bien, vous dispersez le troupeau. Et c'est ce qui s'est arrivé, puisqu'il a promulgué une loi en disant « les pasteurs seront brûlés, etc., seront mis à mort », ce qui fait que la plupart des pasteurs ont fui. Et c'est ce qui a donné des communautés en Suisse, en Allemagne comme à Berlin, il y a toute une partie de Huguenots à Berlin, aux Pays-Bas, en Angleterre, etc., qu'on a retrouvé ces pasteurs. Et les petites communautés huguenotes, là il y avait une communauté huguenote ici aussi sur Aubergenville, à Volé-Huguenot, eh bien ils étaient privés de pasteurs, donc privés d'interprétation de la parole, et ça partait dans tous les sens, dans les Cévennes, il y a eu beaucoup d'exagérations qui aujourd'hui encore jouent contre nous, en charismatique je dirais, parce qu'il y a eu d'exagérations, parce qu'il n'y avait pas la parole qui ramenait les gens, parce qu'en plus à l'époque ils ne lisaient pas, hein. On a l'impression que c'est Jules Ferry hein, qui a mis l'école, avant ils ne lisaient pas, donc il fallait vraiment être éduqué pour lire, et les gens ils se débrouillaient comme ils pouvaient, mais les pasteurs étaient dispersés. Quand on disperse le pasteur, on disperse l'église, et c'est toujours la stratégie de l'ennemi de s'attaquer à la tête pour ensuite disperser le troupeau. Le pasteur, alors je reprends Calvin, c'est celui qui prêche la parole, en plus de prendre soin des brebis, mais aussi de renvoyer à une dimension sacrée. Parce que s'il n'y a pas de dimension sacrée, ça veut dire qu'on ne renvoie pas à Jésus. Je disais que Jésus, c'est le bon berger. Et c'est lui qui doit diriger l'Église. Donc il faut bien qu'il y ait ce qu'on appelle une transcendance dans l'Église. Voyez-vous ? C'est bien dans les Églises protestantes d'avoir tout enlevé, je suis pour, mais en fait, il ne faut pas enlever l'essence même, pourquoi on vient ici, parce que Jésus est présent au milieu de nous. Et là, il faut un certain respect. Alors, bien sûr, l'Église va trop loin dans la sacralisation du lieu. Mais nous, parfois, on va dans l'autre sens. On va dans l'autre sens. Parce qu'il n'y a pas cette dimension où on se rappelle toujours que Jésus est là, quand on se réunit. Et c'est aussi le pasteur qui doit rappeler cette réalité. C'est pour ça que ça pèse sur lui comme une certaine responsabilité de cette tâche. Alors, le rôle pastoral, qui en est chargé dans l'Église ici ? Eh bien, ce sont les membres de l'équipe opérationnelle. Donc, la nouvelle équipe opérationnelle est composée de deux pasteurs, Oscar et Florence, et d'Alexis et Charles, qui sont anciens. Comme je le disais, les anciens doivent aussi pouvoir apporter la parole, mais les pasteurs doivent être ancrés dans la parole. Et c'est eux qui doivent vraiment tenir les choses au niveau doctrinal. C'est pour ça qu'il y a un conseil aussi pastoral, dans laquelle Michel et moi, nous sommes encore en tant que pasteurs émérites, c'est-à-dire on reconnaît nos capacités pastorales sur la parole, on s'occupe plus des soins des gens, mais on travaille ensemble avec cette équipe de pasteurs opérationnels pour voir effectivement les points doctrinaux. Il y en a tout le temps, des hérésies qui viennent, tout le temps des débordements dans les églises, etc. Et ça, il faut qu'on veille pour que le troupeau soit bien conduit dans la parole. Donc de manière exceptionnelle, comme ce matin, hein, j'interviens parce que Oscar me l'a demandé, mais voilà, normalement on est en retrait et vous avez deux pasteurs et deux anciens qui ont cette charge pastorale. Et en priorité, Oscar et Florence. Alors, quelles sont les conséquences de la vision missionnelle? Puisque ça fait 3 semaines qu'on parle de vision missionnelle. Eh bien, l'Église entre désormais, vous l'avez compris, dans un processus de discipulat, faire des disciples. Parce qu'on l'a perdu. On aurait dû toujours le garder, ce discipulat, vous voyez. Et moi, je m'en suis plaint auprès de l'ancienne direction de l'Église en disant, mais quand est-ce qu'on va arriver au discipulat? Ça fait 20 ans qu'on devrait y être. Et en fait, on tourne entre nous. En fait, on faisait tourner l'Église. Vous voyez. Et c'est ce que vous avez compris, que le missionnel, c'est tourner vers l'extérieur. Tout en faisant tourner l'Église. Mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas le centre. Le centre, ce n'est pas de venir ici pour avoir un bon culte. Vous voyez, ce matin-là, vous n'avez pas été gâté. Pour un point technique, ça foirait. Mais avant, c'était que ça. Et moi-même, j'étais coaché par quelqu'un qui me disait, écoute, André, il faut que l'Église, l'école dimanche soit impeccable, il faut que tout soit impeccable, il m'égrenait tout. Sauf qu'il y avait que Michel et moi, on devait tout avoir impeccable. À un moment donné, on lui dit, mais écoute, nous, on craque, là, c'est fini, hein. On peut faire des choses, mais là, on n'y arrive plus. Voilà. Donc, il est parti, parce que, en fait, il voulait tout nous mettre sur le dos. Et il fallait qu'on soit tellement impeccable pour qu'on attire les gens des autres églises, vous voyez. Bon, bien sûr, si vous avez une école du dimanche qui est au top, tout le monde va venir amener les enfants, etc. Je comprends. Mais voilà, ce n'est pas du tout une église missionnelle. L'église missionnelle est tournée vers l'extérieur et puis à l'intérieur, on fait du mieux. Hein. Aujourd'hui, il faut faire avec les gens qui sont là et les gens qui se lèvent pour servir. Donc l'église désormais, je pense que vous êtes tous d'accord parce que, en fait, l'église s'est vidée de certaines personnes et maintenant, il faut être sur le fondement de l'église, c'est être missionnel, c'est-à-dire faire des disciples. Et ces disciples, comme vous le voyez en haut à droite, c'est Daniel Lichtig qui nous a appris que dans l'église, eh bien, c'est un écosystème. C'est-à-dire que l'ensemble des activités qui se font, école du dimanche, culte, groupe de maison, réunion de prière, etc., tout ça, ça doit être relié, interrelié. Et c'est là qu'on optimise un peu les choses, au lieu d'additionner des choses. Parce que si on additionne des activités, on va faire peser tout ça sur les mêmes personnes. Et du coup, ils vont craquer. Voilà. Et donc, voilà, c'est cette notion d'écosystème dont il a parlé, entre la prière, les échanges entre les groupes, les différentes activités. Même, il a parlé d'une troisième, un troisième groupe qui peut se mettre en place, qui est extérieur à l'Église, etc. Et donc, les soins pastoraux seront beaucoup plus légers pour les pasteurs. Pourquoi ? Parce que les chrétiens sont centrés non pas sur eux, mais centrés sur la mission. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus léger pour les pasteurs. Et c'est tout à fait l'objectif à atteindre. Et la nouvelle priorité, c'est de vivre une histoire. Je pense que toute la direction qui est là, vous avez envie de vivre une histoire. Moi et Michel, on a vécu une histoire. On va continuer à la vivre avec vous. Mais c'est vous qui allez créer une histoire. Une histoire. Ce troupeau, il va être emmené pour avoir une histoire. Il y en a qui sont fans pour avoir une histoire. Parce que sinon, c'est vachement ennuyeux. Venir ici pour avoir d'histoire. Oui. Je veux dire, c'est les disciples, quand ils sont allés avec Jésus, Jésus, il les a embarqués dans une histoire fantastique, à tel point qu'ils ne voulaient pas qu'ils partent. Ils ne voulaient pas qu'ils partent, c'est extraordinaire. Ils voyaient Jésus qui guérissait les malades, ils voyaient Jésus qui multipliait les pains, enfin, c'est extraordinaire, ils ne voulaient pas qu'ils partent. Hein. Mais c'est exactement comme ça que cette Église doit vivre avec les nouveaux responsables, c'est vivre une histoire. C'est-à-dire, il faut que vous construisiez une histoire, et vous allez le faire, et vous commencez déjà à le faire. Donc la nouvelle priorité, c'est vivre une histoire ensemble, une histoire d'amour, une histoire de mission. L'Église est avant tout apostolique. Pourquoi ? Parce que le mot apostolique, là aussi, je voudrais déminer un petit peu ce mot, hein, qui, pour certains, c'est des médailles, être apôtre, être machin, etc. Bon, je ne vais pas citer des exemples, mais ce n'est pas du tout ça. Apostolique veut dire envoyé. Jésus était le premier apôtre de Dieu. Il était envoyé, car Dieu a tant aimé le monde, etc. Jean 3,16. Le Père a envoyé son Fils. C'est un apôtre. Jésus est apôtre de Dieu. Et ensuite, Jésus a envoyé ses disciples qui sont devenus apôtres. Et ensuite, après, eh bien, Jésus appelle des apôtres, appelle des hommes et des femmes. Moi, j'étais appelé pour fonder cette Église. Alors que, voilà, j'avais mon travail, j'étais à plein temps dans mon travail d'ingénieur, et j'étais appelé à le faire, et j'ai résisté. Mais à un moment donné, j'ai dû répondre à l'appel, et le Seigneur m'a désigné comme étant celui qui doit fonder cela. Donc, on est appelé. Certains sont appelés particulièrement à fonder des choses. Donc, ça s'appelle une fonction apostolique. Je préfère fonction apostolique qu'apôtre. Parce qu'apôtre, c'est un titre dans lequel on s'assoit, etc. Fonction apostolique, c'est envoyé. Et aujourd'hui, vous êtes tous envoyés. Vous êtes tous apôtres, oui, d'une certaine manière. Il faut déminer les mots, hein, pour que ça prenne du sens. Donc, c'est un organisme, l'Église est un organisme qui est vivant, qui envoie des disciples. Donc, vous êtes envoyés. Et l'Église est un peuple en marche, donc en voyage, avec un but. Le but, c'est la croissance. Et rappelez-vous, dimanche dernier, Kevin a bien dit que la croissance est aussi qualitative et quantitative, parce que dans la parole, on voit que, que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, dans l'Église primitive. Il y a une maturité individuelle et aussi une croissance collective, parce que des disciples font des disciples. Donc le but, c'est la croissance vers la maturité en Christ, donc sur le plan individuel, pour atteindre une destination, une destinée, un avenir et une espérance. Et nous avons tous individuellement un avenir, une espérance, parce que nous avons un appel spécifique chacun, mais aussi collectivement. Et ultimement, toute l'Église a un appel, c'est quoi? C'est entrer dans la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Et là, on retrouve toute l'idée de l'Ancien Testament. On entend les gémissements du peuple en Égypte, dans l'esclavage. Ils étaient 450 ans en esclavage en Égypte. Et ils ont gémi, gémi, gémi. Pourquoi? Parce qu'à la fin, les pharaons étaient de plus en plus durs avec eux. Et ils étaient dans l'esclavage. Et Dieu a entendu leur cri. Et qu'est-ce qu'il leur a envoyé? Il leur a envoyé Moïse pour les délivrer. Donc, il y a un voyage qui a commencé avec Moïse, hein, qui était envoyé donc apôtre. Sauf qu'apôtre, c'est grec, donc ça n'existait pas dans l'Ancien Testament, puisque c'est de l'hébreu. Mais donc, je dis le mot apôtre pour bien vous mettre dans l'idée que c'est envoyé. Donc Dieu a envoyé Moïse, qui était réticent. Il a dit, non, moi, je ne peux pas parler, je ne peux pas ceci. Enfin, il connaissait en plus Pharaon, puisqu'il était le deuxième après Pharaon à gouverner sur l'Égypte. Il s'était enfui. Donc retourner là-bas, ça lui disait rien du tout. Et donc il a résisté. Mais Dieu est persévérant. Quand il appelle quelqu'un et qu'il veut absolument qu'il prenne le poste, je peux vous dire, moi j'ai résisté. Mais à un moment donné, voilà, si on veut obéir au Seigneur, eh bien on peut que répondre à son appel. Et donc, le peuple est sorti d'Égypte et il a été emmené au mont Sinaï pour recevoir la parole, les tables de la loi, les commandements. Et ensuite, après, il a voyagé dans le désert pendant 40 ans. Et quand ils allaient rentrer dans le pays promis, parce que Dieu a dit « Je vous sauve du Pharaon et je vous fais entrer dans un pays où coule le lait et le miel. » Ok, quand même, c'est formidable. Le pays d'Israël, aujourd'hui, ceux qui y sont allés, vous voyez combien il est riche. Eh bien, il sort de l'esclavage pour les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et au moment d'arriver, à l'entrée de ce pays, il y a 12 espions qui étaient envoyés, vous connaissez l'histoire, et il y en a deux seuls qui croient que Dieu peut leur donner parce qu'il y avait des géants dans ce pays. Et donc, leur foi a été éprouvée. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont revenus de leur voyage pour espionner et qu'ils ont rapporté leur résultat? Eh bien, en fait, il n'y en a que deux qui croyaient que c'était possible et il y en a 10 qui ne croyaient pas. Et ce sont les 10 qui l'ont emporté. Pourquoi? Parce que le peuple a commencé à murmurer. Et les murmures, quand il y a des murmures dans l'Église, des murmures, etc., ben, ça détruit la foi, ça détruit la dynamique du voyage, de ce que Dieu veut faire. Et en fait, Dieu a attendu qu'il meure dans le désert jusqu'à la nouvelle génération. Et il y a que même Moïse n'a pas pu rentrer. Josué et Caleb sont rentrés. Vous voyez, le but, c'était d'entrer dans le pays promis, dans le pays de la promesse. Mais il y a une condition, la condition, c'est la foi, de croire que Dieu est capable de détruire les ennemis. Dans une église, on a des ennemis. On a un ennemi qui s'appelle Satan, le diable. Et il est réel. Alors, tout le monde n'y croit pas. Hein. Moi, de l'autre côté, j'avais mangé avec le vicaire général de Versailles. Il m'a dit, non, le diable n'existe pas. Hein. Bon, il était pratiquement évêque. Non, il n'existe pas, c'est un principe. C'est-à-dire, bon. Donc, voilà, je respecte. Chacun peut avoir son avis. Mais moi, je crois que le diable existe. Il y en a qui croient ici que le diable existe. C'est une entité spirituelle, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il a une volonté, qu'il a une action, qu'il a une décision, et la Bible nous dit quelle est sa décision. C'est pas d'être gentil avec nous. Hein. C'est que, un, il veut éradiquer l'Église, et il commence par la tête. Il commence toujours par la tête. Voilà. C'est pour ça qu'un homme avertit en vaut deux. Et je sais qu'Oscar, il sait très bien hein, qu'il est prudent. Il sait ce que ça coûte hein, quand on est à la tête. Et moi aussi. Mais voilà, si on a un appel, on a un appel. Mais il faut se protéger. Et moi, actuellement, je suis très reconnaissant de ceux qui sont dans l'Église parce qu'ils ont la foi. Ils veulent avancer et ils sont déterminés à résister à l'ennemi. Résister à l'ennemi. Et ils fuira loin de vous. Voyez-vous, il faut être conscient qu'il existe, il faut lui résister, mais on a la victoire et on va gagner la partie. Alors, je vais essayer de rapidement vous expliquer pourquoi dans ce cadre-là, missionnel et missionnaire, ce n'est pas juste une question de mots. Parce que je sens qu'il y a une nouvelle confusion. Tout à l'heure, je parlais de pasteur, est-ce que c'est clair, etc. Je ne voudrais pas qu'il y ait une nouvelle confusion de mots, où on échange les mots, etc. Non, non. Chaque mot ici veut dire quelque chose. Missionnel, missionnaire, c'est deux choses différentes, parce qu'on rentre dans cette dimension avec le Seigneur. En fait, tout est basé, beaucoup de choses sont basées sur Philippiens 2, 12 et 13. Philippiens 2, 12 et 13, c'est quoi ce verset? Le verset, il dit « Travaillez à votre salut ». C'est bizarre, parce que ça va à l'encontre du salut par la grâce et du salut par la foi. Bon, « Travaillez à votre salut ». Alors qu'en fait, bon, c'est très catholique, hein, il faut faire des œuvres pour être sauvé. Bon, donc déjà, ça commence mal, parce qu'il faut déjà qu'on réfléchisse pourquoi ce n'est pas un travail qui va nous sauver. Donc « Travaillez à votre salut, car c'est Dieu ». Car c'est Dieu qui quoi ? Vous connaissez la suite ? Qui met en vous le vouloir et le faire. Voilà. Car c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Et la suite, c'est selon son plan bienveillant. Donc il a un plan. Vous voyez ? Donc on a un plan. Là, on parlait d'un voyage. Hein. Le plan de l'Ancien Testament, pour le troupeau, c'était d'emmener le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Nous, c'est de nous emmener de notre naissance spirituelle jusqu'à la maturité en Christ. L'Église balbutiante telle que nous sommes aujourd'hui vers une Église victorieuse ici à Aubergenville pour qu'elle soit un témoin de sa grâce, etc. etc. Voyez-vous, on est dans un voyage. Hein. Donc c'est un plan. Dieu a un plan. Qu'est-ce qu'il croit que Dieu a un plan pour cette Église? Moi, j'y crois. Sinon, je ne serais pas là. Hein. Avec tout ce que j'ai vécu, il y aurait de quoi partir en vitesse. Mais je sais qu'il y a un plan. Donc c'est Dieu qui va gagner. Voyez ? Donc on est dans la foi que Dieu va agir. Sauf que nous, on est des êtres frêles, fragiles, etc. Bon, et il faut qu'on marche par la foi. Donc je redis le verset 12 et 13. Travaillez votre salut. Donc ça veut dire qu'on doit faire quelque chose. Voyez ? Car c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Vouloir et le faire. En fait, ce sont les deux éléments qu'il faut retenir. C'est être et faire. Avoir une identité, connaître notre identité et faire en vue de la croissance. C'est en fait ce qu'on appelle une méthodologie, si vous voulez, de croissance du royaume de Dieu en milieu hostile, parce que maintenant, il est devenu hostile avec le post-christianisme, le post-modernisme, enfin, tout ce que vous avez entendu des invités précédents. Donc, voilà, comment est-ce qu'on met en œuvre l'être et le faire, le vouloir et le faire, sachant que Dieu nous aide, de toute façon, mais il faut le mettre. Je vous donne un exemple, tout simple, pour comprendre missionnel et missionnaire. Si vous rêvez à avoir, je ne sais pas, des tomates, des pommes de terre dans votre jardin, etc. Je ne sais pas s'il y en a qui sont jardiniers ici. Il y en a qui jardinent ici. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je jardine aussi, j'aime bien. Parce que, ma mère était cultivatrice, était paysanne, et voilà, j'ai beaucoup jardiné avec elle. Et donc, si vous rêvez d'avoir des belles choses, c'est très bien. C'est très bien. Vous êtes extraordinaire dans votre façon d'être. Vous êtes un jardinier qui avait ambition de faire un beau jardin, etc. Voilà. Mais est-ce que ça suffit ? Hello ? Ah, voilà. C'est pas le tout d'être un jardinier qui connaissait beaucoup de choses, hein, qui connaissait la fanière dont ça germe, à quel moment il faut le mettre, voilà, etc. Mais il faut sortir, il faut se lever, il faut prendre les graines au bon moment, et semer, etc. Et ensuite après récolter, etc. Vous voyez, donc il y a l'être et le faire. Vous pouvez être un très très bon chrétien qui voulait travailler en mission, c'est formidable de comprendre que Dieu nous appelle à faire des disciples, mais si vous ne sortez pas pour en faire, ça va pas annoncer le royaume de Dieu. Vous voyez ? Parce qu'on est co-ouvriers. Ces deux versets, 12 et 13, c'est travailler, ça veut dire on doit œuvrer, mais on devrait avec le Seigneur. C'est-à-dire que ça ne se fera pas tout seul. Et c'est pour ça que dans l'Église, il y a des engagements. Alors, des engagements pratiques dans l'Église, mais comme je vous le disais, ce n'est plus la priorité de faire une Église super, voilà, qui marche parfaitement. Mais ce qui est important, c'est de faire des disciples. Et c'est ça l'objectif de toute Église, depuis 2000 ans, qui a été perdue et qui est retrouvée. L'Église catholique aujourd'hui retrouve ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation, parce qu'eux-mêmes, ils ont perdu tout ce qu'on appelle des croyants de multitude qui venaient. Maintenant, ça devient des croyants confessants qui confessent Jésus. Et acte 12, verset 24, dit que la parole de Dieu croissait et se multipliait. En fait, l'objectif de croissance, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que, bien sûr, nous portons en tant que témoins, en tant que disciples, nous portons la parole. Mais c'est la parole de Dieu et elle ne retourne pas à Dieu sans effet si nous la portons. Et j'ai bien aimé le frère qui maintenant est mort, c'est Michel Gauthier qui a porté les petits bleus. Voilà, sans arrêt, voilà, lui, c'était vraiment donner du petit bleu à quiconque, etc. Bon, chacun a sa façon d'évangéliser. Mais c'est la parole de Dieu qui croissait et se multipliait au temps primitif et qui aujourd'hui doit aussi se retrouver, et en particulier dans notre Église. La croissance en maturité, vous voyez, là je l'ai illustré avec quelqu'un qui voilà, est en naissance, une nouvelle naissance, un bébé spirituel, et ensuite après, il doit grandir, il ne doit pas rester un bébé spirituel. Donc individuellement et collectivement, on doit rentrer en croissance, croître en maturité, vers la stature parfaite de Christ. C'est Éphésiens 4, verset 13, qui nous le mentionne. Alors, en 2013, on était encore Foursquare à l'époque, hein, 2013, donc il y a 10 ans, Dieu nous a donné une vision. Et cette vision, elle est là pour ceux qui le veulent, hein, c'est un flyer étoile, hein, qu'on avait fait pour expliquer quelle est la vision de l'Église. Et en fait, cette vision-là, elle est toujours valable aujourd'hui. Hein, sauf qu'on ne l'a pas bien mis en pratique et que voilà, c'est maintenant le temps de la mettre en pratique parce qu'elle n'a pas changé. Et cette vision, elle dit quoi ? Cette vision, elle montre, en dessous, vous le voyez ici, un petit bateau. Et ce petit bateau, il a deux rames, mais aussi une voile. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit va souffler. Vous voyez, le Saint-Esprit qui est derrière, il souffle, donc il nous aide. Hein. On est coopérant, co-travailleur avec Dieu. Donc il nous aide, et surtout quand c'est difficile. Mais il y a deux rames qui sont l'être et le faire. Et pour un voyage, pour un but, pour un cap, pour une destinée. Hein. Ce qu'on appelle aussi les points de visée dans la vision qui a été retravaillée ensemble par toute l'Église. C'est les impacts. C'est-à-dire qu'il y a une cible. Et vous savez que le péché, c'est manquer la cible. C'est manquer la cible. Là, c'est retrouver à atteindre la cible. Parce que Dieu a une cible. Il veut pour cette Église quelque chose de spécifique qu'il n'a pas pour d'autres. Et cette cible, il s'attend à ce que nous puissions l'atteindre. Et c'est Dieu qui va le faire. Alors voilà le flyer hein, qui est là. Hein. Être et faire, c'est marqué là, en comptant sur le Saint-Esprit, avec une boussole d'orientation, avec le besoin de guérison, c'est pour ça qu'on a adopté aussi le ministère de la Maison d'Élie, et avec le besoin de virilité, de vertu, de valeurs, si vous voulez, qui sont les valeurs de cette Église. Alors, je vais l'illustrer un petit peu pour que ce soit très concret pour vous, que missionnel et missionnel, c'est pas la même chose, c'est deux choses qui doivent travailler ensemble, missionnel et missionnaire. La vie chrétienne est une invitation à un voyage. À deux reprises, il y a eu Jésus qui a pris un bateau. Le premier, c'est après la multiplication des pains. Et alors là, c'est intéressant parce que, en fait, la multiplication des pains, Jésus les a envoyés tout seuls sur l'eau en prétextant, c'est un prétexte, en disant oh oui, il faut que je m'occupe des gens pour terminer, il y a encore trop de gens qui sont là, etc. Et en fait, il a profité pour prier la nuit. Et pendant que. Il a dit allez de l'autre côté, voilà, allez de l'autre bord. Donc ils sont partis et une grande tempête s'est levée. Mais ce n'est pas le hasard. Et en fait, Jésus, il a apparu sur l'eau en plein milieu de la tempête. Et c'est là que Pierre est sorti et il a marché sur l'eau. Donc ça, c'est le premier voyage pour aller de l'autre côté. Le deuxième voyage qu'il nous a relaté, c'est quand Jésus a dit, maintenant, allez de l'autre bord, et il est monté dans la barque, sauf qu'il s'est endormi. Et vous savez la suite, hein, c'est qu'en fait, une tempête s'est levée et ils ont, en fin de compte, réveillé Jésus qui a dit, mais Jean, de peu de foi, peu de foi, peu de foi. Il a pris autorité et la tempête s'est calmée. Donc, vous voyez, on est dans un voyage. Le troupeau, c'est un voyage avec le berger. Le bateau, c'est un voyage pour aller de l'autre bord. Et l'autre bord, il y a quelque chose à faire. Il y a les Gadaréniens qu'il faut délivrer, que Jésus a délivré. Il y a tout un tas de... La parole doit être annoncée. Et nous sommes dans une barque. Et nous aussi, nous devons monter dans cette barque parce que Dieu nous donne un ordre. Il dit, allez de l'autre bord. L'autre bord, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, cette église doit être un phare. Elle doit être un phare. Parce que c'est, d'ailleurs, chaque église devrait être un phare, vous me direz. Mais spécifiquement, cette église, Dieu l'a appelée ici, à cet endroit, dans le 21e siècle, pour être un phare ici et maintenant dans cette région. C'est la volonté de Dieu. Et donc, si on veut faire ce voyage avec lui et réussir, eh bien, il faut faire la chose suivante. Donc, la grande commission de Jésus, et là, je paraphrase un peu Jean-François Gott, hein, qui l'a longuement explicité, qui est sur YouTube, aller en étant disciple. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller pour juste, voilà, on fait des disciples, mais nous-mêmes, on doit être disciples. Donc, il y a un travail sur nous-mêmes pour devenir disciples, et on ne l'est jamais assez, disciples. Disciples, ça veut être au pied de son maître. Allez en étant disciples et faites des disciples parmi toutes les nations, pour atteindre un but. C'est finaliser le corps spirituel de Christ, qui est l'Église, jusqu'à sa pleine maturité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a du chemin parce qu'elle n'est pas encore à pleine maturité. Et le jour où elle le sera, ben, le Seigneur va revenir. Donc, nous, on est en chemin. Il y en a qui nous ont précédés, d'autres qui vont nous suivre, et il faut qu'on avance. Alors, comment se passe cette traversée avec cette barque, avec une petite voile et avec deux rames? En fait, l'être, c'est ce que je suis en Christ, ce que je crois être, un disciple. Je dois savoir que je dois être un disciple. Ça, c'est mon être. Si je ne le crois pas, à ce moment-là, je ne pourrais pas aller de l'autre côté. Donc, il faut être. Alors, être et je rame. Voilà. Voilà. Et je rame. Mais si je fais que ça... Pardon. Il n'a pas répondu à ce que je... Ah mince, ben, c'est l'ordinateur d'Olivier. Mince, il ne répond pas pareil, Olivier, ton truc. Bon, ok. Enfin bon, sur mon ordinateur, il faisait un aller-retour, vous voyez, pour ramer. Voilà. Donc si vous ramez de ce côté-là, hein, qu'est-ce qui va se passer? On tourne à droite, hein, puisque là j'appuie sur l'eau, donc je suis à droite. Donc je tourne en rond. D'accord? Je tourne en rond et je ne vais pas aller tout droit. Okay? Si je fais le fer, hein, ah oui, non, il ne marche pas parce que normalement, ça devrait effacer le côté gauche. Bon. Si je fais le fer, voilà, oui, il efface tout. Bon, dans pied, ça ne marche pas. Ça marche pas. Si je fais le fer, bon, je vais le faire ici, je suis en train de faire. Qu'est-ce que je fais ? Je tourne en rond dans l'autre sens. D'accord ? Donc en fait, dans les deux sens, dans les deux cas, je tourne en rond. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Ouais, bah, il ne marche pas. Enfin, j'avais fait tout un montage, mais qui ne marche pas, vous voyez. En fait, ça devrait s'afficher pour que les deux rames fassent ça. Hein ? Vous avez tous fait du bateau, hein, je suppose. OK ? Voilà, quand même. Les deux rames font comme ça, l'être et le faire en même temps. Le vouloir et le faire. Je veux être disciple et je fais des disciples. Je veux être disciple et je fais des disciples. Vouloir et le faire. Hello ? Non ? C'est bon ? Parfois on dit je suis compliqué. J'ai essayé de simplifier pour bien comprendre que c'est vraiment l'être et le faire en même temps qui vont m'amener au but. La cible, parce que la cible est là. Parce que si le bateau, il est là et vous faites ensemble, bien sûr, si vous le tournez un peu, vous ramez un peu à gauche ou à droite, puis après, vous allez devant. C'est l'être et le faire. Philippiens 2, 12 et 13. Alors, si on le met sur le côté missionnel, bien, de côté, on doit être missionnel. Hein, c'est-à-dire, je rappelle très rapidement, missionnel, c'est de se mettre dans la tête qu'aujourd'hui, on ne peut plus évangéliser comme avant, parce qu'on est dans une société post-chrétienne, les gens ne connaissent plus le langage, ils savent quoi ce que la Bible, ils ne savent même pas qui est Jésus, etc. Voilà. Ils confondent tout. Donc il faut être conscient, notre identité de chrétien, que c'est plus en mettant des trucs dans les boîtes aux lettres, bien que ce n'est pas interdit de le faire, au contraire, mais je veux dire, ça ne marche plus de la même façon. Et il faut bien être missionnel dans la tête, dans notre identité de disciple, pour que on puisse avoir du fruit. Et de l'autre côté, il faut être missionnaire. Voilà. Missionnaire, ça veut dire qu'il faut faire la mission. Il faut parler. Il faut témoigner. Il faut faire des disciples. Vous voyez ? Donc, il faut être et faire. Ça va ? C'est pas compliqué ? Voilà. Et tout ça pour la croissance. La croissance vient automatiquement, notre croissance personnelle, quand nous sommes dans cette configuration, et l'Église, il y a une croissance qualitative et quantitative pour le royaume de Dieu. Alors, deux exemples missionnels. Hein, donc, vous avez ceux qui n'ont pas entendu, c'est sur YouTube, demandez le lien à Jérôme, où il a longtemps expliqué qu'en Touraine, donc dans la Sarthe, 200 km d'ici, Jean-François Gott, qui a été éjecté de son église, hein, il a construit une église, c'est un homme extraordinaire, et en fait il s'est retrouvé du jour au lendemain sans plus d'église, et on l'a mis dehors, et donc il s'est remis à aller dans un café, simplement, à évangéliser, là il se rencontre de temps en temps dans le café, avec des gens qui écoutent, et voilà, il nous a montré que voilà, c'est être missionnel, c'est être à l'écoute des gens pour leur apporter l'Évangile, et que c'est aujourd'hui le seul moyen, eh bien, de faire connaître l'Évangile aux perdus. Et donc c'est leur témoignage qui nous a frappés, et à Rosny-sur-Seine, donc à côté, un plus jeune. Tous les deux sont étudiants de la faculté de Vaud, donc c'est quand même des gens qui sont très solides au niveau théologique, eh bien, qui lui a démarré depuis deux, trois ans peut-être, eh bien, une église aussi missionnelle. Une église qui va dehors, qui sort dans la semaine, où l'église dispersée est en train de faire des disciples. Alors, il faut y aller. Allons-y, et maintenant. Alors, comment, avec qui, de quelle manière ? Donc, le premier, je n'inciterai pas, c'est Daniel, hein, qui nous a appris un principe, qui est l'écosystème. Pour pas que l'église explose en activité, il faut que tout puisse interagir à chaque fois qu'on crée quelque chose. Et donc, on va regarder ça pour que ça ne soit pas une charge pour les gens de l'église, des responsables, mais que ça puisse fonctionner de cette manière-là. Le deuxième que je voudrais évoquer, moi je l'ai découvert, c'est Mario de Saint-Pierre, qui est au Québec, à la ville de Québec, et qui a développé une méthode missionnelle qui s'appelle les trios de croissance. Alors j'aime bien les trios de croissance parce qu'en fait, trois, vous voyez, c'est très peu, c'est moins que 12 par exemple, hein. Il y a des méthodes de 12 à 14, etc. 3, je pense que c'est assez facile à concevoir d'être à 3. 3 pour grandir. Et donc ces trios de croissance, en fait, je vais vous donner sa vision. Je pense qu'il est quand même intéressant de voir pourquoi il a développé cette méthode missionnelle qu'ils appellent écosystème pastoral. Tout à l'heure, on parlait ecclésial. Voilà son rêve. Et moi, j'aimerais bien avoir ce rêve aussi. Je rêve d'une église profondément transformée et missionnaire, où chacun aurait fait une rencontre personnelle avec le Seigneur et se serait engagé sur un chemin de croissance, qui mettrait Jésus à la première place dans sa vie, développerait chaque jour sa relation avec lui par la prière, d'une communauté fraternelle et chaleureuse, où chacun serait le bienvenu et trouverait sa place telle qu'il est, et se sentirait accueilli, aimé, soutenu. Tous prendraient soin les uns des autres. D'une église où chacun aurait le désir de grandir spirituellement, de se former, d'affermir sa foi de disciple. Chacun laisserait le Seigneur disposer de ses dons et de ses talents pour les mettre au service de la mission. Se donnerait entièrement en renonçant à son désir propre d'une organisation où leader, pasteur, membre serait engagé dans une vraie co-responsabilité et une vision commune, cheminant ensemble vers la sanctification et prendraient chacune de leurs décisions guidées par le Saint-Esprit. D'un terrain de mission où chacun aurait le souci du salut des âmes, le courage de partager sa foi, d'inviter dans son Église et serait prêt à sortir pour témoigner et annoncer un Dieu inconditionnellement aimant et miséricordieux, afin que d'autres puissent à leur tour faire cette expérience bouleversante d'un amour infini et de voir, et là je ne sais plus la suite parce qu'elle était tronquée, mais de voir que le Seigneur se glorifie, je pense, quelque chose comme ça. Moi je trouve que c'est extraordinaire. Ça résume vraiment ce que nous voulons être. Et tout ça, c'est basé sur les épis qui se multiplient, qui sont utilisés dans la parole de Dieu pour nous montrer que Dieu fait croître et il arrose en plus pour faire croître tout cela. Et ils appellent ça les trios de croissance. Les trios de croissance, c'est un écosystème qui est un écosystème pastoral. Et donc, ça a été créé en 2020, donc c'est pas vieux. Je pense que ces trios d'apprentissage à devenir missionnel, ça dure 6 mois à 3. C'est pour former les chrétiens dans l'Église à être disciples et eux-mêmes à inviter d'autres et dans ce trio pour grandir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé, vous voyez, 2-3. On passe à 3, chacun à 3, on passe à 9, et au bout de 5 fois, on est déjà à 243 disciples. En 10 fois, ce n'est pas beaucoup, on est 59 049 disciples. Ça a l'air de rien, 3, hein, parce que bon, 12 ou 14, ça peut aller vite, mais même 3, voyez-vous. C'est chacun est conscient qu'il est missionnel et missionnaire, et qui fait ce travail de 3 en 3 en 3, eh bien, ça peut très vite bien grandir. Et c'est ce qui s'est produit dans l'Église primitive. Dans l'Église primitive, très vite, eh bien, les disciples ont bouleversé le monde de l'époque. Et à la fin du 1er siècle, l'Évangile était déjà au nord de l'Angleterre. Voilà, alors nous voilà donc avec différentes ressources qui nous ont été apportées durant ces dernières semaines, et la direction de l'Église va considérer pour cette nouvelle saison eh bien, ces ressources pour savoir comment les implémenter et peut-être faire un groupe témoin, on verra, mais on ne va pas laisser tomber à terre ce que le Seigneur nous a dit. Parce que ce serait dommage de repartir à faire un constat dans 10 ans, 20 ans, où cette Église n'aura pas bougé. Elle va bouger parce que le Seigneur a prévu de la bouger, parce que c'est son désir de faire connaître le royaume de Dieu à tous ceux qui sont perdus. Je vous invite à la prière. Seigneur, te demandons que tu nous trouves obéissants à ta parole, afin que ce que nous avons entendu ces dernières semaines ne tombe pas à terre et qu'elle puisse produire des effets dans nos vies. Je te remercie déjà de ce que chacun a à cœur de témoigner et qu'il le fait. Mais Seigneur, nous voulons faire encore mieux. Et avec les frères et sœurs qui nous ont précédés de peu, peut-être, mais qui peuvent nous aider, eh bien, nous puissions eh bien, être présents. Présents quand tu nous appelles, comme tu le fais maintenant. Seigneur, à être tes disciples. C'est la seule chose que tu as laissée quand tu es parti de cette terre. Tu as dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Et Seigneur, jusqu'à ce que je vienne. Eh bien, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as parlé et tu vas nous aider maintenant à marcher dans ces voies, marcher de progrès en progrès. Et Seigneur, que tu vas ajouter, Seigneur, à l'Église tous ceux qui sont sauvés parce que tu nous vois, Seigneur, dans cette attitude missionnelle et missionnaire parce que nous voulons faire la mission. Eh bien, que toute la gloire te revienne qu'à toi, dans le nom de Jésus. Amen.